Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Comme les autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
Martineau,
Cube Radio.
Alors, tous les mercredis, je discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme.
Salut, Richard.
Écoute, Jérôme, on sait que tu vis au Mexique. D'ailleurs, j'ai reçu ton exemplaire de ton livre, Un Québécois à Mexico, et je vais m'y plonger rapidement. Je vais me plonger dans ton livre. Je te suis sur les réseaux sociaux, et chaque fois que tu postes des photos de toi au Mexique, c'est toujours des places publiques magnifiques, et des terrasses, et des haciendas, et des fleurs partout, tout ça. Le côté joli du Mexique, mais il y a un côté rock'n'roll en maudit. Là, écoute, il y a encore une journaliste qui a été tuée par des membres de cartel.
Oui, il y a un côté sombre, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes dans le monde. C'est un très triste bilan. Donc, le Mexique se retrouve sur la liste des pays, avec des pays, c'est-à-dire comme l'Afghanistan, le Pakistan, ce genre de pays, la Syrie en temps de guerre. Donc, ce genre de pays très, très invitant. Depuis la pandémie, chaque semaine, des gens m'écrivent pour me demander comment ils feraient pour immigrer au Mexique, pour fuir les mesures étouffantes et tout ça. Et là, une des premières choses que je leur dis quand j'ai le temps de leur répondre, c'est attention quand même. Hein, le Mexique, c'est pas un pays que je conseille à tout le monde. Il faut quand même être très averti. Et la violence bat des records. Évidemment, il y a moyen de vivre une vie tout à fait normal, extrêmement agréable. C'est un pays effectivement tellement stimulant, mais c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre. Puis, quand on est journaliste, évidemment, les journalistes qui sont en danger, ce sont évidemment ceux qui, journalistes d'enquête, hein, qui ont révélé des choses sur le crime organisé. Donc, c'est pas les journalistes qui font de l'opinion sur la politique comme telle. C'est vraiment les journalistes qui se spécialisent dans le crime organisé. Donc,
et quand tu fais ça, là, quand tu suis ce beat-là, comme on dit, écoute, c'est à tes risques et périls, là. C'est très dangereux de faire ça. Un journaliste qui suit le beat du judiciaire et du crime organisé au Mexique.
Voilà, c'est pas loin d'être suicidaire, malheureusement. Souvent, il faut signer anonyme, mais c'est pas toujours le cas. Puis ça se passe évidemment dans des régions pas partout là, donc des régions ciblées. Par exemple, là, c'est on parle de Tijuana, donc une autre journaliste qui a été exécutée la semaine dernière. Donc Tijuana, donc à la frontière avec les États-Unis, on parle mettons de la Ciudad Juárez dans le nord aussi. On se rappelle Denis Villeneuve.
Ben oui, Sicario.
Sicario, ben oui. D'ailleurs, le maire de la Ciudad Juárez avait critiqué Denis Villeneuve parce qu'il lui avait dit que Monsieur Villeneuve présentait sa ville de manière la dépeignait d'une manière assez négative. Il l'avait même invité à interdire le film, en fait. Alors, puis Denis Villeneuve lui avait répondu que la Ciudad Juárez, c'était pas un club med.
Et non, mais écoute, je pense même qu'il a tourné son film avec des gardes du corps, je crois, à Denis Villeneuve, ouais, dans ce village-là, parce qu'on montre que souvent ça arrive, ça a l'air que dans certains villages au Mexique, tu te réveilles le matin, il y a des gens pendus en dessous des ponts, en dessous des viaducs, ce sont des gens qui ont été pendus par le cartel.
C'est ça, ça arrive pas partout, mais dans des villes comme ça, sous contrôle du crime organisé, c'est clair. Il y a plusieurs États. Écoute, le Mexique et la Nouvelle-Colombie, là, c'est il y a beaucoup d'États Où on peut tout simplement pas vraiment aller. Moi, quand j'entends des gens un peu naïfs qui me disent que hey, on va faire un road trip au Mexique, attends un peu là. Tu vas faire un road trip au Mexique, dans quel état, avec qui, parles-tu espagnol, es-tu suicidaire, ça va
tout. Ben oui. J'avais lu une histoire, j'avais lu une histoire d'une fille, OK, en plein jour, Jérôme là, elle conduisait son auto, une fille en plein jour. Il y a des gars qui sont arrivés et ils l'ont sorti de son champ puis ils l'ont violé sur la platane là, à côté de la route là.
Aïe aïe.
Et non, c'est raide en maudit. Tu viens en Colombie lors de quand il y avait des trafiquants de drogue qui se retrouvaient devant les tribunaux, les juges étaient masqués, les juges portaient des masques pour pas se faire reconnaître justement pour pas que leur sécurité soit menacée. Quand t'es rendu là avec un système de justice où les juges doivent être masqués, c'est quelque chose.
Oh non, écoute, c'est ce qu'on appelle un quasi-narco-état. Moi, ça me fait toujours un peu sourciller quand on accuse souvent le président actuel, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, le surnommé AMLO de par ses initiales, de finalement ne pas avoir réussi à remonter l'économie et à assurer une meilleure sécurité là. Mais la vérité, c'est que le type contrôle pas grand chose. Il y a carrément des zones du pays qui sont pas des zones de non-droit, par exemple comme en France, mais ce sont des zones, c'est ça, qui sont où l'État ne rentre pas. Donc c'est une sorte, en France ils parlent de séparatisme islamique. Si on pourrait parler d'une sorte de narco-séparatisme, l'État, le gouvernement ne se rend pas, n'assure pas et n'est pas capable de faire respecter la loi dans des États comme le Guerrero actuellement, certaines zones, ou en tout cas Sinaloa, évidemment le fameux cartel de Sinaloa. Donc c'est quand on dit road trip,
il faut être naïf en maudit pour dire hey, je vais faire un road trip au Mexique là. Il faut savoir là, il faut que tu sois street smart comme on dit là. Il faut que tu saches quel quartier éviter, où aller ou pas aller, donc c'est important. Écoute Jérôme, on sait que tu as écrit un livre sur entre autres, la figure de l'Autochtone, la figure de l'Indien comme étant presque un saint, une figure innocente, etc. Et là, il y a beaucoup de gens gauchistes qui aiment ça, dire qu'ils sont autochtones alors qu'ils sont pas, parce que ça paraît bien. C'est fantastique. Oui. Là, il y a encore un autre professeur, ça a l'air qui aurait falsifié justement ses origines autochtones.
Ben oui, Sébastien Mallette, de l'Université de Carleton, qui n'est pas Carleton, mais qui est à Ottawa. Donc, c'est ça. Encore une fois, on l'accuse de pas être un véritable autochtone, ou du moins de pas avoir 100% de sang autochtone. On est toujours dans l'espèce d'appel de la pureté raciale. C'est incroyable, oui. Qu'on puisse dire dans un pays comme le Canada, vous n'êtes pas assez pur sur le plan racial pour occuper telle charge. En général, la pureté raciale, c'est pas comme si c'était un concept associé au progressisme. Là. On n'a pas besoin d'en dire plus là-dessus. Donc, écoute, on vit dans un pays, le Canada, où on donne des privilèges à des gens, des communautés. Donc, encore une fois, faut pas s'étonner que certains cherchent à faire carrière, en fait, à avoir une carrière plus prestigieuse. Donc, pour ça, il faut qu'ils s'autodéclarent ou qu'ils falsifient leurs origines. C'est incroyable. Donc, le privilège blanc, c'est plus un privilège minoritaire, finalement.
Jordan Peterson, le fameux professeur de l'Université de Toronto, là, qui vient de démissionner, qui est peut-être l'intellectuel le plus connu à travers le monde, l'intellectuel canadien le plus connu à travers le monde, il a démissionné sa job de prof parce qu'il dit vraiment, actuellement, dans les universités, si t'es un blanc hétérosexuel, un homme, là, les chances d'être subventionné, d'avoir des jobs de recherche, etc., ils sont minimes, parce qu'on donne ça surtout à des minorités. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tentés de se dire autochtones en disant, hey, là, je vais avoir plein de subventions, je vais avoir plein de financements pour mes projets de recherche.
Oui, c'est ça, j'allais le mentionner, sa fameuse lettre au National Post, dans laquelle, c'est ça, il explique que les subventions de recherche et même les postes comme tels aujourd'hui de professeurs sont attribués sur des bases qui ne sont plus, non seulement elles ne sont plus idéologiques, mais elles sont aussi ethniques. Donc, avant, On donnait des bourses en fonction du sujet. Donc, bon, t'as un sujet socialiste, un sujet multiculturaliste, on va te donner de l'argent, on va t'accorder une chaire de recherche pour faire la promotion du multiculturalisme. À l'époque, ça se limitait à ça. On n'allait pas jusqu'à regarder les origines du professeur. Donc, t'es multiculturaliste, bon, t'es blanc, t'es hétéro, bon, ça passe encore. Tu fais partie de la bonne gang. Aujourd'hui, c'est pas assez. Là, il faut que tu sois multiculturaliste, il faut que tu sois pour le transgenrisme, l'identité, la théorie du genre, tout ça, ce qui se discute, mais bon, on rentrera pas en détail. Donc, là, il faut que tu sois non seulement dans la bonne gang idéologique, mais aussi il faut que tu fasses, que tu répondes aux critères ethniques, les origines. Donc, êtes-vous de la bonne couleur? Tu sais, c'est quand même incroyable. Là. Êtes-vous de la bonne couleur pour occuper tel poste? Non, l'Université canadienne, les universités au Canada, c'est vraiment, écoute, c'est, en sciences sociales, c'est une faillite complète. On l'a vu venir. Moi, quand j'ai quitté l'Université d'Ottawa, c'était en 2018. C'était déjà quand même, on voyait venir depuis déjà quelques années, mais si tu m'avais dit que ça se rendrait jusque-là, moi, je t'aurais dit oui. Je t'aurais dit oui. Mais c'était plus respirable. Là, c'est rendu irrespirable.
Mais là, c'est pas rien que, là, mettons, tu dis un projet de recherche en sciences sociales, par exemple. Bon, tu dis, OK, ça va être, il faut que tu sois teinté politiquement pour avoir. Mais là, ça touche même les sciences pures. T'as vu ça dans le National Post il y a quelques temps? C'est un professeur, un scientifique qui fait des recherches sur les lasers. Puis lui, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de financement pour ses projets de recherche parce qu'il n'y a pas suffisamment d'Autochtones et de personnes racisées dans son équipe. C'est fou, là.
C'est incroyable. Puis aux États-Unis, même, ils ne se limitent pas à exclure des personnes blanches. Là, on parle aussi du privilège asiatique. Donc, les Asiatiques aux États-Unis ont de trop bons résultats scolaires, apparemment. mais c'est vrai, les communautés asiatiques apparemment sont reconnues pour avoir des écoles, des élèves, les parents ont des enfants très performants à l'école.
Tout à fait.
Je pense qu'ils ont le droit. Et là, de plus en plus, on les accuse de par leur performance d'alimenter les inégalités raciales. Hein, donc, non, mais c'est fou pareil. Écoute, t'as un enfant, Richard, là, qui s'intéresse à une matière, il performe, il a des bonnes notes, puis là, il faudrait que tu lui dises, non, pourrais-tu être plus mauvais, s'il te plaît? Parce que t'es en train d'alimenter les inégalités. Là. Pourrais-tu être mauvais, s'il te plaît?
Non, mais attends, je pensais que moi, de la gauche woke, respectait la culture des minorités, des groupes. Tu sais, les Asiatiques sont comme ça. Si t'arrives, t'es un enfant asiatique et t'arrives avec un bulletin, t'as 90% chez toi, tes parents vont pleurer parce qu'ils vont trouver que t'es poche, parce qu'ils veulent que t'aies 100%. C'est comme ça chez les Asiatiques, ils sont très performants. Mm-hmm. Il semble qu'on devrait justement respecter leur culture. Là, t'es en train de dire non, ça c'est pas correct qu'ils agissent comme ça. Incroyable.
Non, c'est comme si s'il fallait que les Américains d'origine asiatique se fassent comme d'autres, puis se montent aussi un lobby pour se victimiser, mais ça fait pas partie non plus de leur culture communautaire, hein, on peut pas dire se plaindre, puis je dis pas que les Afro-Américains sont pas victimes d'injustice, c'est clair que oui, là, sur différents plans, mais les Asiatiques n'ont pas ce réflexe communautaire, comme on voit en France, de toujours, bon, accuser la société d'accueil de racisme. Donc, c'est comme si les Asiatiques n'avaient pas voulu faire partie de cette espèce d'esprit de revanche sur l'Occident. Et là, donc,
on les punit pour ça.
C'est ça, exactement.
Alors, donc, finalement, si t'es pas contre les Blancs, t'es avec eux. C'est ça qu'on est en train de dire aux Asiatiques. Étant donné que vous protestez pas contre les Blancs, contre le privilège blanc, donc ça veut dire que faites partie de la gang.
Une espèce de processus de blanchisation.
Fou, mais en tout cas, le privilège...
Ça tire toute la société vers le bas. T'imagines, à partir du moment où tu dévalorises le succès, la performance, la réussite scolaire, ben dans quel genre de société tu vas te retrouver dans 10-20 ans? Donc, une société médiocre où finalement, ce sont les pas bons qui vont être valorisés, peu importe leurs origines. Tu sais, c'est quand même... quelle décadence!
Ben oui, tout à fait. Décadence de l'Occident. Et le privilège blanc, je m'excuse, mais selon Jordan Peterson, ça n'existe pas absolument. absolument pas à l'université, c'est même le contraire. Merci Jérôme Blanchet-Gravel, je plonge dans ton livre ce week-end, on s'en reparlera la semaine prochaine. Merci.
Salut. Excellent. Bye. Salut, bye.